Quand nous sommes arrivés à Copenhague au matin, le temps était lugubre et glacial, et les routes menant à la ville étaient ensevelies sous la brume. Le site de la conférence avait tout l'air d'un ancien centre commercial. Nous avons erré dans un labyrinthe d'ascenseurs et de couloirs, dont l'un était mystérieusement bordé de mannequins en plastique, avant de retrouver Hillary et Todd, qui nous ont expliqué où ils en étaient. Dans le cadre de l'accord transitoire que nous proposions, j'avais autorisé Hillary à engager les États-Unis sur une baisse de 17% de nos émissions à l'horizon 2020, ainsi que sur une contribution de 10 milliards de dollars au Fonds vert pour le climat d'un budget de 100 milliards, destiné à aider les pays pauvres à s'adapter au réchauffement climatique et à en atténuer les effets. D'après Hillary, les délégués de nombreux pays s'étaient montrés intéressés par notre proposition, mais les Européens ne démordaient toujours pas d'un traité pleinement contraignant, tandis que la Chine, l'Inde et l'Afrique du Sud ne demandaient qu'à laisser la conférence s'enliser avant de jeter la pierre aux États-Unis. Si tu arrives à convaincre les Européens et les Chinois de se ranger derrière un accord transitoire, a dit Hillary, alors il est possible et même probable que le reste du monde suive le mouvement. Maintenant que ma mission était claire, nous sommes allés rendre une visite de courtoisie au Premier ministre du Danemark, Lars Løkke Rasmussen, qui présidait les derniers jours de négociation. Comme tous les pays scandinaves, le Danemark était extrêmement performant dans les affaires internationales, et Rasmussen lui-même reflétait une grande partie des qualités que j'associais aux Danois. Il était prévenant, bien informé, pragmatique et humain. Mais la tâche qui lui incombait, bricoler un consensus mondial autour d'une question complexe et litigieuse sur laquelle les grandes puissances s'opposaient, aurait été ardue pour n'importe qui. Pour cet homme de 45 ans, qui dirigeait un petit pays depuis seulement 8 mois, elle s'est révélée tout bonnement impossible. La presse a fait ses choux gras des histoires racontant comment il avait perdu le contrôle de la conférence, les délégués retoquant sans cesse ses propositions, remettant en cause ses décisions et refusant son autorité, comme des élèves turbulents face à un professeur remplaçant. Quand nous nous sommes rencontrés, le pauvre homme était sous le choc. Son regard d'un bleu limpide était marqué par la fatigue et ses cheveux blonds plaqués sur son crâne comme s'il sortait d'un combat de lutte. Il m'a écouté attentivement déployer notre stratégie et m'a posé quelques questions techniques sur le fonctionnement d'un accord transitoire. Mais dans l'ensemble, il paraissait soulagé que je tente à mon tour d'arracher un compromis. De là, nous nous sommes dirigés vers un grand auditorium improvisé où j'ai exposé à l'Assemblée les trois volets de notre accord transitoire ainsi que l'autre possibilité, l'inaction et l'acrimonie dans un monde en flammes. Le public m'a laissé parler dans un silence respectueux et Ban est venu me féliciter en coulisses, a pris ma main entre les siennes et agit comme s'il était parfaitement normal de sa part d'attendre à présent que je désembourbe les négociations et que je décroche avec les moyens du bord un accord de dernière minute. Le reste de la journée a été très différent de tous les autres sommets auxquels j'ai assisté en tant que président. À l'écart du chahut de la session plénière, nous passions d'un rendez-vous à l'autre par des couloirs bondés de gens qui tendaient le cou et prenaient des photos. Le plus important acteur international présent, à part moi, était le premier ministre chinois Wen Jiabao. Il était venu avec une délégation colossale et la Chine s'était montrée intraitable et péremptoire, refusant de se soumettre à toute forme de contrôle de ses émissions, car elle savait que, avec ses alliés brésiliens, indiens et sud-africains, leur groupe avait suffisamment de poids pour contrecarrer n'importe quel texte. Lors de mon entrevue privée avec Wen, j'ai riposté en l'avertissant que, même si la Chine pensait remporter une victoire à court terme en se soustrayant à toute obligation de transparence, cela se révélerait à long terme un désastre pour la planète. Nous sommes convenus de continuer à parler au fil de la journée. C'était un progrès, mais un progrès infime. L'après-midi s'est évaporé en séance de négociation. Nous sommes parvenus à faire valider un accord temporaire par des membres de l'UE et plusieurs autres délégués, mais les rendez-vous suivants avec la Chine n'ont mené nulle part, car Wen refusait d'y participer et envoyait à sa place des éléments inexpérimentés qui, sans surprise, se montraient inflexibles. Plus tard dans la journée, on m'a conduit dans une salle que je n'avais pas encore visitée et qui, cette fois, était pleine d'Européens mécontents. La majorité des dirigeants les plus importants étaient là, dont Angela Merkel, Nicolas Sarkozy et Gordon Brown, et tous affichaient le même air fatigué et exaspéré. Maintenant que Bush était parti et que les démocrates étaient au pouvoir, les Européens voulaient savoir ce qui empêchait les États-Unis de ratifier un traité sur le modèle de Kyoto. Ils ajoutaient que, sur leur continent, même les partis d'extrême droite acceptaient la réalité du réchauffement climatique. Qu'est-ce qui clochait dans la tête des Américains ? Ils étaient au courant que les Chinois causaient des problèmes, mais ils se demandaient pourquoi nous n'attendions pas le prochain traité pour leur forcer la main. Pendant une heure, je les ai laissés vider leurs sacs, j'ai répondu à leurs questions et entendu leurs inquiétudes. Finalement, la réalité de la situation s'est imposée et c'est Angela Merkel qui l'a exprimée. Ce que Barack décrit n'est pas la solution que nous espérions, mais c'est probablement la seule que nous ayons aujourd'hui, a-t-elle déclaré calmement. Bon, attendons de savoir ce que vont dire les Chinois et les autres et puis nous déciderons. Elle s'est tournée vers moi. Vous allez les voir ? J'y vais. Alors bonne chance. Là-dessus, elle a haussé les épaules en penchant la tête, la bouche tirée vers le bas et les sourcils légèrement levés. Une expression trahissant son habitude des nécessités déplaisantes. L'élan, même léger, qui nous portait en quittant les Européens, s'est envolé dès que Hillary et moi avons poussé la porte de la salle qui était allouée à notre délégation. Marvin nous a annoncé qu'une féroce tempête de neige s'abattait sur la côte Est. Pour pouvoir nous ramener sans risque, Air Force One devait décoller d'ici 2h30 maximum. J'ai regardé ma montre. À quelle heure est mon rendez-vous avec Wayne ? Ça, patron, a dit Marvin, c'est l'autre problème. On n'arrive pas à lui mettre la main dessus. Il m'a expliqué que lorsque nos attachés avaient contacté leurs homologues chinois, ces derniers leur avaient répondu que Wayne était déjà en route pour l'aéroport. Certaines rumeurs prétendaient qu'il n'avait pas quitté le bâtiment et s'était réuni avec les autres dirigeants opposés au contrôle de leurs émissions, mais nous n'en avions pas la preuve. Donc il me fuit, si je comprends bien. On a envoyé des gens le chercher. Quelques minutes plus tard, Marvin est revenu nous informer que Wayne et les chefs d'État brésiliens, indiens et sud-africains avaient été aperçus dans une salle de réunion quelques étages plus haut. « Parfait », ai-je dit en me tournant vers Hillary. « C'était quand la dernière fois que tu t'es incrusté dans une fête ?» En riant, elle m'a répondu « Ça fait un bail », avec un air de jeune fille rangée qui décide soudain de se lâcher. Suivi au trot par un groupe de conseillers et d'agents du Secret Service, nous avons foncé dans les étages. Au bout d'un long couloir, nous avons trouvé ce que nous cherchions. Une salle aux parois de verre, tout juste assez grande pour contenir la table de réunion autour de laquelle était assis le Premier ministre Wayne, le Premier ministre Singh, les présidents Lula et Zuma et certains de leurs ministres. La sécurité chinoise a voulu nous intercepter, les mains en avant pour nous ordonner d'arrêter, mais en comprenant qui nous étions, elle a hésité. Avec un sourire et un salut de la tête, Hillary et moi sommes passés devant les agents et entrés dans la salle, laissant dans notre sillage une empoignade assez bruyante entre la sécurité et nos conseillers. « Alors Wayne, on y va ? » ai-je lancé en regardant la mâchoire du dirigeant chinois se décrocher. J'ai ensuite fait le tour de la table pour serrer toutes les mains. « Messieurs, j'ai eu du mal à vous trouver. Bon, on en est où de cet accord ?» Sans laisser le temps à quiconque de protester, j'ai attrapé une chaise et je me suis assis. Wayne et Singh sont restés impassibles tandis que Lula et Zuma, l'air piteux, fixaient les papiers étalés devant eux. Je leur ai dit que je venais de parler avec les Européens et qu'ils étaient prêts à signer notre proposition d'accord transitoire à condition que le groupe ici présent accepte les termes d'un mécanisme de contrôle indépendant. Chacun leur tour, les chefs d'État ont expliqué pourquoi notre proposition était inadmissible. Kyoto fonctionnait très bien. L'Occident était responsable du réchauffement climatique et demandait à présent aux pays pauvres de brider leur développement. Notre idée enfreignait le principe des responsabilités communes mais différenciées. Ce mécanisme de contrôle violerait leur souveraineté nationale. Après environ une demi-heure d'échange, je me suis reculé contre le dossier de ma chaise et j'ai regardé le Premier ministre Wayne dans les yeux. « Monsieur le Premier ministre, je vais aller droit au but. Avant que j'arrive dans cette salle, je suppose que vous aviez l'intention de vous en aller tous les quatre et d'annoncer que c'était la faute des États-Unis s'il n'y avait pas de nouvel accord. Vous pensez que si vous tenez bon assez longtemps, les Européens finiront par se lasser et signeront un nouveau traité sur le modèle de Kyoto. Mais le problème, c'est que je leur ai dit clairement que je n'arriverai pas à faire ratifier le traité que vous voulez. Et rien ne garantit que les électeurs européens, canadiens ou japonais, auront envie de continuer à faire peser un désavantage concurrentiel sur leurs entreprises et à aider les pays pauvres à affronter le réchauffement pendant que les plus gros pollueurs mondiaux se tournent les pouces. Bien sûr, je peux me tromper, ai-je poursuivi. Et vous réussirez peut-être à convaincre tout le monde de nous faire porter le chapeau. Mais ça n'empêchera pas les températures de monter. Et n'oubliez pas que moi aussi, j'ai un mégaphone, et il est puissant. Si je quitte cette pièce sans un accord, la première chose que je ferai sera de descendre dans le hall où toute la presse internationale attend des informations. Et je vais lui dire que j'étais prêt à m'engager pour une réduction importante des gaz à effet de serre, ainsi que pour une aide de plusieurs milliards de dollars, mais que tous les quatre, vous avez décidé qu'il était préférable de ne rien faire. Je vais le dire aussi à tous les pays pauvres qui devaient bénéficier de cet argent et aux populations de vos pays qui vont souffrir du réchauffement. Et on va voir qui tout le monde va croire. » Quand les interprètes ont fini de traduire, le ministre chinois de l'Environnement, un type solide avec un visage rond et des lunettes, s'est levé d'un coup et s'est mis à parler en mandarin d'une voix stridente en agitant les mains dans ma direction, le visage rouge de colère. Il a continué comme ça pendant une ou deux minutes, sans que personne comprenne trop ce qui se passait. Pour finir, Wen a levé une main délicate et sillonnée de veines, et le ministre s'est rassis brusquement. Je me suis retenu d'éclater de rire, et je me suis tourné vers la jeune interprète chinoise. « Que vient de dire mon ami ?» lui ai-je demandé. Avant qu'elle ait le temps de me répondre, Wen a secoué la tête et murmuré quelques mots. La traductrice a acquiescé et s'est retournée vers moi. Le premier ministre Wen dit qu'il ne faut pas prêter attention au ministre de l'Environnement, m'a-t-elle expliqué. Le premier ministre demande si vous avez sur vous l'accord que vous proposez, afin que tout le monde puisse examiner une nouvelle fois les termes précis. Il m'a encore fallu une demi-heure de chipotage, entouré par les chefs d'État et leurs ministres qui me regardaient souligner au stylo bille certains passages du document froissé que j'avais sorti de ma poche, mais lorsque j'ai quitté la salle, le groupe avait accepté notre proposition. Je suis redescendu à toute allure et j'ai encore passé une demi-heure à convaincre les Européens de valider les changements minimes réclamés par les pays en développement. Les éléments de langage ont été rapidement imprimés et diffusés. Hillary et Todd ont acquis plusieurs autres délégués à notre cause. J'ai fait une rapide déclaration à la presse pour annoncer l'accord transitoire, puis nous avons sauté dans nos véhicules et foncé à l'aéroport. Nous sommes arrivés 10 minutes avant la fin de la fenêtre de décollage. L'ambiance était à la fête sur le vol du retour. Mes collaborateurs racontaient les aventures de la journée à ceux qui n'étaient pas là. Reggie, qui travaille avec moi depuis longtemps et ne se laissait plus impressionner par grand-chose, avait un grand sourire aux lèvres quand il a frappé à la porte de ma cabine, où j'étais en train de lire une pile de mémos. « Patron, m'a-t-il dit, c'est un vrai truc de gangster ce que vous avez fait. » J'étais plutôt content. Sur la plus grande scène qui soit, sur un sujet sérieux et alors que le temps pressait, j'avais réussi à sortir un lapin de mon chapeau. Certes, les médias avaient un avis mitigé sur l'accord transitoire, mais entre le chaos de la conférence et l'entêtement des Chinois, je le considérais tout de même comme une victoire, un tremplin pour faire voter la loi sur le climat par le Sénat. Plus important encore, nous avions amené la Chine et l'Inde à accepter, quoique à contre-cœur, l'idée que tous les pays, et pas uniquement l'Occident, avaient une responsabilité dans la lutte contre le réchauffement climatique. 7 ans plus tard, ce principe élémentaire se révélerait crucial pour aboutir à l'avancée que constituerait l'accord de Paris. Pourtant, assis à mon bureau, tandis que je regardais par le hublot l'obscurité régulièrement interrompue par une lumière clignotante au bout de l'aile droite, des idées plus graves m'ont rattrapé. J'ai repensé à tout le travail que nous avions dû abattre pour conclure cet accord, le labeur d'une équipe talentueuse qui ne comptait pas ses heures, les négociations en coulisses et les renvois d'ascenseurs à collecter, les promesses d'assistance, et enfin 11 heures d'intervention qui s'étaient jouées davantage sur mon irruption au culot que sur une argumentation rationnelle. Tout ça pour un accord provisoire qui, à supposer qu'il fonctionne comme prévu, ne serait au mieux qu'une étape préliminaire et timide dans la résolution d'une possible tragédie mondiale, un seau d'eau jeté sur un incendie. Je me suis rendu compte que, malgré tous les pouvoirs attachés au poste que j'occupais désormais, il resterait toujours un abîme entre ce qu'il fallait accomplir pour rendre le monde meilleur et ce que j'étais en mesure de faire en une journée, une semaine ou une année. Quand nous avons atterri, la tempête annoncée s'était abattue sur Washington et un mélange de neige et de pluie glaciale tombait sans discontinuer. Dans les villes du Nord, telles que Chicago, les camions avaient déjà commencé à déneiger et à saler les rues, mais dans le district de Columbia, réputé pour son manque d'équipement, il suffisait de 3 flocons pour paralyser la ville, fermer les écoles et provoquer des embouteillages. Marine One ne pouvant pas nous transporter à cause du temps, le retour à la Maison Blanche par les routes verglacées a été plus long qu'à l'accoutumée. Il était tard quand j'ai retrouvé la résidence. Michel lisait au lit. Je lui ai raconté mon voyage et lui ai demandé des nouvelles des filles. « Elles sont surexcitées par la neige », m'a répondu Michel. « Moi, un peu moins. » Elle m'a regardé avec un sourire compatissant. « Au petit déjeuner, Malia va sûrement te demander si tu as réussi à sauver les tigres. » J'ai acquiescé en retirant ma cravate. « J'y travaille. »